Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. C'est un rendez-vous exceptionnel que je vous propose ce soir en compagnie d'un homme qui figure déjà dans les livres d'histoire pour avoir aboli la peine de mort en France. C'était il y a 40 ans. Il fut ministre de la Justice, président du Conseil constitutionnel, sénateur, avocat. Mais ce soir, c'est l'écrivain qui est avec nous. Bonsoir, Robert Badinter.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir sur ce plateau de La Grande Librairie ce soir.
Merci heureux d'y être.
Vous publiez aux éditions Fayard 3 pièces de théâtre, dont 2 n'ont jamais été jouées. Et nous en parlerons longuement ce soir avec vous, Robert Badinter. Elles évoquent, ces pièces, les grandes passions, j'allais dire les grandes obsessions de votre vie. La justice, bien sûr, la peine de mort, la vengeance, mais aussi la mémoire et, me semble-t-il, le poids de l'histoire. Nous sommes ensemble pendant 1h30. Il y aura quelques surprises, évidemment, comme souvent dans cette émission. Tiens, sur ce plateau, je ne vous dis rien, mais enfin, sur ce plateau du studio Gabriel, vous pouvez voir un piano, une scène derrière moi, et bien évidemment des livres qui nous entourent. Robert Badinter, vous accompagnez la vie politique et intellectuelle des Français depuis maintenant de nombreuses décennies, et il suffit d'ailleurs, c'est très intéressant, de se plonger dans les archives de la télévision pour voir à quel point votre parcours est exceptionnel et vos centres d'intérêt sont variés.
J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
L'histoire retiendra qu'aujourd'hui, 18 septembre 1981, les députés se sont largement prononcés pour l'abolition de la peine de mort en France.
Pour 369, contre 116, l'Assemblée nationale a adopté.
C'est de cette enceinte, souvent, que se sont levées les plus grandes voix, celles qui ont résonné le plus haut et le plus loin dans la conscience humaine.
Vous avez rappelé justement Hugo. J'y ajouterai à cet instant, parmi les écrivains, Camus.
Tous ont soutenu la cause de l'abolition.
Alors pourquoi le silence a-t-il persisté? Pourquoi n'avons-nous pas aboli?
D'âge en âge, à chaque fois que se lève l'injustice des hommes qui se dressent et qui la combattent, rappelle le nom de Zola.
On était tout à fait décidés à écrire un livre. Mais le sujet, c'est pas si facile à trouver. Le problème était comment trouver, où nous retrouver. Et Condorcet, oui. Et à mesure qu'elle m'en a parlé, à mesure que j'avançais moi-même dans la connaissance de Condorcet, vous savez, c'est vraiment profondément l'homme qui combat l'injustice.
Le texte en dessous, manuscrit de Hugo, est absolument formidable. Mettez le juge dans un plateau, placez le bourreau dans l'autre, pesez la justice humaine et dites-moi ce que vous pensez de la peine de mort, Victor Hugo. C'est magnifique. Je suis égolâtre, oui.
Quand j'étais un jeune étudiant, un jeune Sorbonnard, les grands événements de l'année, il faut le dire maintenant, ce qu'on attendait, c'était la pièce de Sartre, la pièce de Camus, la pièce de Monterland, la pièce de Mauriac, la pièce d'Anouilh. J'ai toujours considéré que le théâtre, c'était la forme suprême de l'art littéraire. Dans un monde de violence, où les revendications nationales légitimes se manifestent toujours par la violence, les Tibétains n'y ont pas recours. Au lieu d'attirer l'attention par la violence, le Dalai Lama, lui, fait appel à la conscience humaine directement, et je ne suis pas sûr avoir la force de résistance qui se manifeste au Tibet qu'en définitive, cette voie-là ne se révèle pas la meilleure.
Le geste est simple, il se veut historique. Pour la première fois, un président de la République rend hommage aux victimes du Veldiv. Mais voilà, François Mitterrand est hué par une minorité de l'assistance qui juge le geste insuffisant. Colère et émotion de Robert Badinter.
Vous m'avez fait honte! Vous m'avez fait honte
En pensant à ce qui s'est passé là, vous m'avez fait honte. Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent.
Je crois beaucoup, moi, essentiellement, je dirais, à l'exemplarité. C'est l'exemple des parents qui, d'abord, vous fait des défenses dans la vie contre toutes les épreuves. Donc, les parents doivent s'en souvenir. Je pense que d'avoir des parents dont on peut se dire que ce sont des gens bien est une grande force dans la vie et pour toute la vie.
Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire, à vous, Robert Badinter ?
Tu as fait ce que tu as pu. Entre.
Il y a, je crois, Robert Badinter, on l'a entendu, une ligne directrice, un fil rouge en réalité, qui mène à l'action politique, qui dirige peut-être même la conscience. Ce sont les écrivains, les livres, la lecture, la littérature. J'aimerais savoir, avant que nous revenions comme ça sur votre vie, ce que votre parcours doit à la lecture.
Beaucoup. J'appartiens d'ailleurs à une génération où on lisait énormément. À tout moment, je dirais, de liberté, dans le métro, c'était le livre de poche.
Le livre de poche.
Oui, c'était le livre de poche. Il était à la fois commode et bon marché, ce qui, pour les étudiants à l'époque, en signifiait beaucoup. Donc, la lecture, elle est inhérente à la vie, en tout cas à la mienne. Je crois que j'ai passé beaucoup de temps à lire, je ne le regrette pas. Et j'ajoute que mon école buissonnière à moi, quand j'étais lycéen ou étudiant première année, c'était de m'évader un instant dans la littérature et de quitter les manuels de droit pour Camus.
Quels sont les livres, les grands romans qui vous ont fait, qui ont façonné l'homme que vous êtes devenu ?
Écoutez, certainement, L'étranger et, je dirais, La peste que j'ai relue à l'occasion ou pendant le confinement. Ça, oui. Camus a été, pour moi, une grande source d'inspiration. Et je dirais aussi, ce qui est important, un exemple moral.
Un exemple moral par son engagement dans la résistance ?
Par son engagement, oui, mais aussi par une pensée très forte sur ce que devait être l'homme face aux épreuves. L'absurdité de la condition humaine, qui est saisissante, et que seul peut résoudre la question de Dieu, avec la question de son existence, lui pose l'homme face à cette interrogation majeure qui est l'absurdité d'une vie qui s'achève promptement par la mort. Et là, je crois que le message que l'écrivain peut donner et que à 17, 20 ans, vous êtes si avide de saisir, l'influence de l'écrivain est, je ne dirais pas, était, en tout cas dans ma génération, décisive. Ce ne sont pas seulement des moments de divertissement. C'est aussi les moments où on forge et un caractère et une réflexion et parfois aussi un idéal.
Quel était votre idéal lorsque, justement, jeune homme, adolescent, vous avez eu cette chance incroyable, vous nous citez L'étranger de Camus qui est sorti, je crois, en 1942. Vous, à cette époque-là, vous avez 14 ans. Vous êtes encore un jeune homme lorsque vous découvrez les premiers romans de ce jeune Albert Camus qui apparaît, mais alors comme une révélation hein, sur la scène littéraire dans les années de guerre et dans les années d'immédiate après-guerre. Quel est l'idéal que vous a transmis Camus ?
La dignité, que l'homme fasse aux épreuves inhérentes à la condition humaine, qu'il les affronte et que, en lui-même, il demeure un être de dignité. Vous ne devez pas vous abaisser, vous devez essayer dans la mesure du possible. Au contraire, d'aller jusqu'où vous pouvez aller vers les chemins de l'idéal que vous êtes tracé. C'est ça la condition humaine. C'est bien sûr affronter les épreuves, mais quelque part au fond de soi, se dire je ne plierai pas, je ne céderai pas, je continuerai dans la ligne que je considère comme juste. Si je devais, pour moi, résumer ce qu'est l'idéal d'un homme, d'une femme, c'est le mot de juste. Injuste. Malheureusement, c'est très difficile. Croyez-moi, c'est très difficile d'y parvenir. Mais le chemin est, pour moi, tracé.
Qu'est-ce qu'injuste ? Qu'est-ce que c'est, injuste ?
Oui. On arrive à reconnaître assez bien la justice. Quant à la justice, c'est plus difficile. Mais vous le sentez en vous, ce qui est juste n'est pas juste, et injuste. Ça, vous le sentez. Mais l'essentiel, c'est ça. C'est un non. Et c'est là où je reviens, vous voyez, dans ces extraits, par la jeunesse enfouie, mais je revenais sur cette simple idée si importante. L'exemple que l'on doit donner aux enfants est essentiel. Ceux qui ont le privilège d'avoir des parents qu'ils respectent et qui les aiment, bien sûr, eh bien, ceux-là sont mieux armés pour la vie avec ces épreuves. Et je crois beaucoup à l'exemplarité, et particulièrement de notre temps, des parents. Ils devraient toujours penser que les yeux des enfants les regardent et, quelque part, les jugent.
Quel exemple avez-vous reçu, vous, de vos parents et singulièrement de votre père?
Il est parti dans les conditions tragiques alors que j'étais très jeune. Mais j'avais 14 ans, donc ce sont des souvenirs qui sont des souvenirs d'enfance et d'adolescence. Mais je ne l'ai jamais vu céder à la vulgarité, à la, comment dirais-je, oui, à la tentation d'être autrement qu'un homme bien. Vous comprenez, c'est une idée qui se transmet, être un homme bien. Il ne prêchait pas. Sauf par l'exemple. Et j'aurais mille détails que je pourrais raconter de cette exemplarité. Je ne crois qu'à l'exemple. C'est facile de prêcher, faites ceci, faites cela, etc. Non. Il faut d'abord, payer de soi-même. D'abord se dire, si je puis me permettre, de se voir avec les yeux des enfants. Alors, peut-être maintenant, l'âge venu, je m'interroge en me disant est-ce que je n'ai pas été trop austère, est-ce que...
Mais, vous posez la question.
Je ne peux pas ne pas la poser.
Et alors, avez-vous été trop austère?
C'est pas à moi de le dire, c'est à eux. Mais tel que j'étais, tel que je suis demeuré, ça partait évidemment d'une... Pourquoi ne pas le dire, d'une forme d'amour. D'amour si important pour les enfants, mais très maîtrisé dans son expression. C'était plutôt le style anglais, permettez-moi de dire, vieille manière.
Vous venez de dire, j'aurais mille choses à raconter, notamment sur votre père, que vous avez, somme toute, très peu connu. Vous auriez mille choses à raconter que vous refusez de raconter, car vous l'avez souvent dit, vous n'écrirez pas votre autobiographie, vous n'écrirez pas vos mémoires. Or, pourtant, toute votre œuvre, Robert Badinter, tourne autour de la question de la mémoire. Quelle résistance ne parvenez-vous pas à vaincre, vous l'écrivain, pour que votre plume prenne le chemin de la mémoire ?
Non, il a pris le chemin, le récit de la vie de ma grand-mère, parce que, en effet, c'était une histoire d'amour. Les
Idis.
Récits, je ne pourrais pas, voyez, je ne pourrais pas, compte tenu de cette destinée si dure que mon père a connue et de cette fin tragique, je ne pourrais pas écrire. Ce serait, chez moi, une rupture si forte, une tragédie revécue si douloureuse que c'est peut-être une forme de... sinon de lâcheté, en tout cas d'absence de courage, je ne pourrais pas. Je suis, à cet égard, bloqué. Voilà, c'est tout. Je l'ai aimé comme les petits garçons aiment leur père, mais je ne pourrais pas traduire ça en mots. Quelque part, je résisterais. C'est de l'indicible au plus fort sens du terme. Il y a des moments qu'on ne peut pas raconter. Voilà. C'est comme ça, j'ai été élevé ainsi. Ma mère disait, les garçons ne pleurent pas. Très bien. Jamais. Non. C'est ainsi.
Vous ne pleurez pas ?
J'essaye.
Toute votre œuvre théâtrale, et nous allons revenir sur ces trois pièces, tourne autour aussi de cette question-là, de la question de la disparition, de la question de l'indicible, de la question des faits d'un côté avec des dates, et puis de leur traduction avec des êtres humains. Et c'est vrai que d'un côté, il y a peut-être cette date, 9 février 1943, Lyon, rue Sainte-Catherine, lorsque le jeune Robert Badinter voit son père, Simon, arrêté par la Gestapo, par le capitaine Klaus Barbie. Et puis ce que vous dites ne pas vouloir savoir traduire. Et pourtant, on a le sentiment, là aussi, qu'il y a une puissance, une force, comme si quelque part cela guidait votre plume.
Je garderai de commenter ce que vous avez dit, mais un de mes collaborateurs, celui qui, Binet, qui m'a le plus accompagné dans les grandes épreuves judiciaires de jadis, où véritablement se jouait la vie d'un homme, me disait, c'est drôle, vous trouvez toujours, toujours dans vos plaidoiries, un instant là pour parler du père, de celui que vous défendez. C'est curieux, me disait-il. Je lui disais, vous savez, ce que sont les sources cachées de l'éloquence, du moment où vous dites votre vérité à ceux qui vous écoutent pour sauver celui que vous défendez, celui-là, eh bien, quelque part, vous retrouvez les sources vives. C'est elles qui vous emportent. Moi, je ne crois pas une seconde à l'éloquence apprêtée, celle des discours écrits. Je crois que c'est, comme disent les Italiens, la faccia lavata, un homme qui parle à d'autres hommes, à des femmes, à des êtres humains, et qui leur parle comme un être humain. La beauté de la forme, la qualité du style, la richesse de l'expression, pouf ! J'ai connu des avocats de province qui n'avait pas un grand talent, mais une capacité, une force de conviction, de persuasion, à leur manière irrésistible.
Vous avez, on vous a entendu dire tout à l'heure, je suis hugolâtre, en parlant de Victor Hugo. Qu'est-ce que l'abolition de la peine de mort en 1981 doit aux écrits de Victor Hugo ?
Écoutez, d'abord, je pense qu'en effet, il a été plus grand des abolitionnistes, et je dirais que j'ai convaincu, mais convaincu, que il a sauvé en cour d'assises bien plus de vie humaine que n'importe quel avocat. Pourquoi ? Pour une raison simple mais décisive. Dans l'école républicaine, les instituteurs républicains, évidemment, faisaient apprendre à leurs élèves les poèmes de Hugo et les passages de Hugo, je pense au grand passage des Misérables de 80. Et par conséquent, bien après, étant juré, là dans la salle des délibérations, on posait la question de vie ou de mort, le oui ou le non, s'agissant des circonstances atténuantes, qui commandaient la peine de mort ou au contraire la vie sauvée, eh bien, bien des jurés, parce qu'ils avaient lu Hugo, parce qu'Hugo les avait convaincus, même dans leur jeunesse ou plus tard, eh bien, ils ont refusé. Et c'est pour ça que je pense, mais absolument, que Hugo a effectivement sauvé plus de têtes que les plus grands avocats d'assises.
C'est encore une chose à mettre à son crédit, en plus de son génie d'écrivain.
Mais j'ai, là, vous évoquez le dernier texte parlementaire de Hugo. Il est déposé au Sénat et c'est encore une proposition de loi tendant à l'abolition de la peine de mort. C'est très vite rédigé, c'est signé Victor Hugo, c'est, je crois, de 1886, quelque chose. Mais c'est très émouvant. Et je dois vous dire que quand est venu le moment décisif du vote sur l'abolition au Sénat, parce que le Sénat, 6 mois plus tôt, avait voté la motion présentée par M. Perfit tendant à différer le débat sur l'abolition. 6 mois après, nous revenions. Ça avait été un grand affrontement parlementaire. Liberté de vote, conscience de chacun. Je voyais des réunions là, dans la nuit parlementaire, dans la salle des fêtes du Sénat, où il y avait des réunions singulières entre des députés communistes et d'autres qui étaient des bons chrétiens. Et puis, est venu le moment décisif, le vote. Et là, volontiers, je le raconte, pourquoi pas le lire, je me suis rapproché de la place de Hugo, qui était au premier rang à l'extrême gauche, aujourd'hui occupé par le groupe communiste du Sénat. Et à cette place-là, il y a une médaille, la mémoire de Victor Hugo, moindre des choses, et je me suis approché. Et j'ai tenu, au moment où je voyais s'afficher le résultat du vote, l'abolition de la peine de mort, je tenais à être là. Parce que c'était en quelque sorte, pour lui, l'achèvement de sa route. Voilà.
Alors, c'est assez saisissant, parce que dans l'introduction très courte et percutante que vous donnez à ce premier volume, après tout, il y en aura peut-être d'autres, de vos écrits de théâtre. Vous faites une confession, en réalité. Vous nous dites que le théâtre, c'est la pierre angulaire de votre vie. Vous adorez la littérature, vous aimez Victor Hugo, vous aimez Zola, on a parlé d'Albert Camus, de Georges Bernanos, on pourrait en citer d'autres. Mais le théâtre, vous le placez au-dessus de tout. Pour quelle raison, le théâtre ?
C'est une histoire d'amour. C'est tout, je ne crois d'ailleurs qu'aux histoires d'amour et qui durent. Et là, c'est une passion de jeunesse qui n'a jamais cessé. Moi, j'ai découvert le théâtre immédiatement après la Libération, quand je suis rentré à Paris en 1944. Le théâtre était, mais alors, en pleine effervescence. Pendant l'occupation aussi, vous le savez, on a beaucoup créé de pièces. De grands auteurs nouveaux sont apparus, les anciens ont continué à écrire. Mais vraiment, pour un étudiant de 18 ans à la Sorbonne, c'était une merveille.
Mais qu'allez-vous voir et qu'est-ce qui vous intéressait
et nous y courions, mais je n'étais pas seul, nous y courions. Nous, étudiants à Sorbonne, nous y, tous les, on montait au deuxième balcon, sinon au troisième, je ne sais plus, mais en tout cas au deuxième balcon, j'en suis sûr, il y avait des places réservées aux étudiants, et vraiment, chez nous, c'était à l'époque une passion. J'évoque en effet les jeunes filles qui m'accompagnaient ou que j'accompagnais, peu importe, là, elles avaient des jupes longues, new look, et quand on sortait, peu importe le métro et la distance, nous marchions et interminablement, on débattait à plusieurs ou à deux des mérites de la pièce, des qualités de l'acteur, de l'excellence de la mise en scène. C'était une passion commune et dans mon cas, brûlante. Voilà. Alors, ça n'a jamais cessé. J'ai toujours aimé le théâtre, toujours. J'ai été très honoré d'être choisi comme membre de la... du petit comité de sélection de la Comédie française. Bon, c'est très bien. J'ai été très heureux. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. J'y vais moins.
Oui, mais au point d'écrire du théâtre, qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas?
Écoutez, j'ai tenté à plusieurs reprises d'écrire des pièces. J'ai toujours fini dans la corbeille à papier. Et oui. Puis, singulièrement... je me suis décidé à écrire parce que je n'arrivais pas à écrire un essai littéraire sur le procès de Wilde, l'affaire tout à
Oscar
fait...
Oscar Wilde.
Ah oui, sur, oui, le procès d'Oscar Wilde dans lequel il s'est... qu'il a conçu lui-même, qu'il a voulu, dans lequel il s'est précipité et qui a marqué sa fin. Il a été poursuivi et condamné au maximum de la peine par une société si cruelle et si hypocrite, 2 ans de prison, en gros, ce qu'on appelait le solitary confinement, la solitude absolue.
Et les travaux
forcés. Travail
forcé. Ouais.
Et en 2 ans, ils ont détruit Wilde, complètement. Il est devenu une épave. Il a écrit, sauf le... la plus écrite, sauf le sublime des Profondis, ce poème magnifique, mais il était mort. Il est décédé quelques années plus tard. Il vivait à Paris, il est mort à l'hôtel des Beaux-Arts, c'est la rue des Beaux-Arts. C'est une tragédie, la fin de Wilde. C'est une société, la société victorienne, honteuse, ignominieuse d'hypocrisie, et qui a condamné un grand écrivain. Pourquoi? Et c'est ça que j'ai voulu montrer en racontant l'histoire de Oscar Wilde. Ça a été très bien monté par la Velli à la Colline. Très, très bien.
Avec Roland Bertin.
Ah oui,
Bertin, dans le rôle d'Oscar Wilde.
Dans le rôle de Wilde.
Alors maintenant que la pièce existe, hein, C33, dans cette belle édition chez Fayard.
C33, c'était le numéro matricule.
Oui.
Et on n'avait plus le droit de l'appeler par son nom. Son nom si célèbre.
C'est la scène d'ouverture. Hein. Il change de nom et il devient C33, oui. Avec interdiction de parler également, lui oui. Qui aimait tant parler. L'autre pièce saisissante, c'est Les Briques Rouges de Varsovie. Les derniers jours de la liquidation du ghetto de Varsovie, au printemps 1943, vous imaginez la rencontre entre 4 personnages que tout oppose en réalité. Un rabbin résigné, un... jeune révolutionnaire, bundiste, socialiste, juif, bien sûr, actif, prêt à se sacrifier. Une jeune femme, 20 ans, Rivke, qui, elle, est étudiante, sioniste. Et puis, un 4e personnage, et j'aimerais que nous nous arrêtions sur lui, car il représente peut-être cette part d'indicible dont vous parliez tout à l'heure. En tout cas, il représente celui qu'on appelle ordinairement le salaud. Mais c'est un mot que vous n'aimez pas beaucoup, salaud, Robert Badinter. Vous aimez bien savoir ce qu'il y a d'humanité, y compris chez le salaud. Cet homme a commencé par la contrebande avant de devenir l'un des piliers de la police juive du ghetto de Varsovie, autant dire un des auxiliaires des nazis. Oui. Pour quelle raison avez-vous choisi d'opposer, dans des dialogues qui sont saisissants, ces quatre personnages et particulièrement cet homme qui choisit de faire la chasse aux Juifs, juif lui-même.
Vous savez, j'ai été, comment dirais-je, presque prisonnier pendant l'été entier de la tragédie du ghetto. J'avais lu, j'avais été à Varsovie plusieurs fois pour des raisons universitaires. Il ne reste plus rien du ghetto, rien. Quelques briques rouges, bon, mais rien. Et j'ai été hanté par la tragédie qui s'est jouée là.
On peut rappeler peut-être de quoi il s'agit, Robert Badinter. C'est-à-dire cette ville dans la ville, 360 000 juifs qui, en novembre 1940, doivent rejoindre une partie de Varsovie. Des murs sont édifiés.
La moitié à peu près d'un quartier populaire de Paris.
Oui.
Et évidemment, on ne peut pas espérer qu'il y aura 360 000 héros ou 300 000 environ les enfants. Non. L'humanité est telle, elle veut vivre. Et il y a ceux qui sont au-delà même du risque et qui résistent. Mais ce ne sont pas toujours des héros, ceux qui sont là prisonniers du ghetto. Il y a ceux qui veulent vivre et qui travaillent, évidemment, pour les industries allemandes, et notamment en faisant des manteaux de fourrure. Il y a ceux qui pensent que ça s'arrangera. Alors, ils font du marché noir. Il y avait des restaurants de marché noir dans le ghetto.
Vous racontez qu'il y avait des restaurants, des boîtes de nuit.
Il y avait même des boîtes de nuit. Il y avait aussi des concerts qui, heureusement, étaient là, animés par les virtuoses juifs de Varsovie. Tout ça, c'est une humanité très complexe. Et inévitablement, vous avez ce que vous avez qualifié de salauds, c'est-à-dire ceux qui acceptent de servir l'ordre imposé par les Allemands.
Je reprends le mot que Schmil utilise à un moment, quand il parle de cet homme.
Schmil, c'est l'ouvrier.
Voilà, c'est l'ouvrier bundiste. C'est le révolutionnaire. C'est celui qui, lui, résiste jusqu'au bout. Et qui ne comprend pas comment un juif peut devenir celui qui va se lancer dans cette chasse aux autres juifs.
Avec un génie sadique, psychologique, les nazis avaient conçu un système dans lequel c'était les autorités locales élues par les juifs qui géraient le ghetto, ce qui évitait aux forces d'occupation d'avoir à le faire directement. Donc on élisait un Judenrat, un conseil de notables juifs. Et il fallait une force de police. Et c'est là où se sont joués des destins, parce que le conseil des notables voulait une police irréprochable. Ça voulait dire une police qui soit composée d'hommes éduqués, connaissant de préférence le règlement et les lois, et notamment des avocats. Qu'est-ce que vous voulez faire dans un ghetto quand vous êtes avocat et qu'il n'y a plus de tribunaux? Bon. Donc ils adhèrent, ils entrent dans la police. D'autres les rejoignent, de toutes origines. Et finalement, il y a dans les mémoires, et elles sont nombreuses, et les journaux écrits tous les jours par les historiens au ghetto et retrouver ensuite une haine de ses collaborateurs juifs.
Mais
ils ont existé.
Vous citez quelques exemples de ces journaux.
C'est une chose éminemment douloureuse, mais ça a existé. Et là, avec un côté diabolique psychologiquement terrible. Les nazis ont dit à ces policiers, voilà, maintenant, l'heure est venue de envoyer tous les juifs de Varsovie dans les camps de concentration, notamment Treblinka, camp d'extermination, tout proche. Vous allez le faire. Vous allez le faire, on va vous délivrer à vous des sauf-conduits à votre famille. Si vous ne les livrez pas, c'est votre famille qui partira. Et ainsi, tragédie en elle-même effrayante, on a fait de ces policiers juifs des instruments de la Shoah. C'est là où on voit le génie pervers des hommes de la Gestapo, tellement on leur avait fait descendre comme ça les marches de l'humanité. Alors, j'ai écrit ça, puis je ne l'ai pas publié. À quoi bon, monsieur, je dis. Non, c'était l'époque où on faisait l'histoire de la Shoah, et très bien, beaucoup d'historiens, je ne me suis pas ajouté à ça. Mais quelque part, je portais en moi cette exigence de vérité. Alors je me suis dit, le théâtre, c'est encore la meilleure façon de présenter une vérité qui est par essence tragique, mais qui demeure là aussi une part de friction. Vous voyez, cet intervalle qui sépare la réalité de l'imaginaire et qu'on retrouve si bien au théâtre. Donc j'ai écrit cette pièce, puis je l'ai mise de côté. Je me suis dit, un jour peut-être, maintenant je suis âgé, donc j'ai voulu... Bon, je l'ai publié. Il faut assumer, je l'ai publié, mais... C'est une des tragédies humaines les plus atroces qu'ont vécu ces hommes, parce qu'ils se sont vus déchoir. Ils se sont vus dans cette activité criminelle. Arrêter ceux qui étaient leurs frères. Et là était le caractère diabolique du nazisme. C'était pas seulement les vies. Il fallait en plus dégrader jusqu'aux âmes. Et ils l'ont fait. J'ajoute que tous ont pris le chemin de Treblinka.
Un de vos personnages, dans la pièce, pose la question suivante, page 152. Est-ce vrai ce que me disait le maître à l'école, qu'un juif peut demander à Dieu des comptes pour les souffrances qu'il a subies, s'il les trouve injustes?
Le rabbin lui répond, en effet, à celui qui accuse Dieu, j'ai commis des péchés d'homme, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'enfer dans lequel tu nous as fait vivre? Je rappelle que sa femme, ses enfants ont disparu, étaient en camp de concentration, donc... Il n'en peut plus de douleur et il accuse Dieu. Comme la loi le permet religieuse dans les grandes souffrances. Et le rabbin, ce qui est peut-être la raison d'être de sa présence depuis le début, lui dit, il dit ceci qui est un vieil axiome juif. Non. Rappelle-toi, si Dieu n'est pas notre Dieu, alors il est le Dieu des assassins. Et ça, c'est impossible. Sublime, sublime. Le Dieu des assassins, et ça, c'est impossible. Et l'autre l'embrasse, et puis c'est l'apocalypse de la fin.
On vous a entendu dire tout à l'heure, Robert Badinter, c'était sur le plateau de Bernard Pivot, ce que vous aimeriez que Dieu, s'il existe, vous dise. Mais vous, qu'aimeriez-vous lui dire?
Ah non, l'heure n'est pas venue.
excusez-moi.
J'espère bien.
L'heure n'est pas venue.
Mais le plus tard possible.
Non. Continuons.
C'est des choses que vous gardez pour vous, c'est des choses que vous interdisez de dire.
C'est affaire entre moi et moi.
Il y a une pièce, la troisième, fascinante, Cellule 107. Elle est fascinante car vous imaginez, Robert Badinter, ce qu'ont pu se dire deux des personnages les plus détestés de l'histoire de France. Deux des personnages les plus abominables, dit-on, à juste titre souvent,
oui,
de la Deuxième Guerre mondiale. Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy, et René Bousquet, chef de la police de Vichy entre 1942 et 1943. À ce titre, les deux ont commis des crimes contre l'humanité.
Oui, absolument.
L'un, Pierre Laval, a été condamné à mort et fusillé en octobre 1945. L'autre, René Bousquet, a été gracié pour service rendu à la résistance. Et il a fallu attendre 1978, 30 ans plus tard, pour que René Bousquet soit inquiété et révélé son passé. Je dis inquiété parce que ça n'aura pas été beaucoup plus loin. Et puis en 1993, René Bousquet est assassiné par un criminel qui se prend pour un justicier, écrivez-vous, dans la préface de cette pièce. Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter ce que ont pu se dire ces deux grands criminels?
C'est un hasard qui m'a fait découvrir ce qui est un fait historique. Je faisais des recherches sur l'épuration, la justice de l'épuration, et j'ai découvert que la nuit ultime, Laval sait qu'il sera fusillé le lendemain matin, eh bien, le visiteur du soir, accepté par le directeur de Fresnes, ce fut Bousquet. Et pas de l'imaginaire, c'est pas la rencontre de deux personnages qu'on imagine se retrouvant. Non, là, je suis resté stupéfié. Stupéfié parce que, d'abord, règlement, là, il était bafoué. Mais enfin, peu importe, ce qui compte, c'est ça. Et je me suis dit, mais entre Laval, qui va mourir, et Bousquet, qui, lui, est convaincu qu'il va vivre, il ne trompe pas. Et d'ailleurs, Laval le hait parce qu'il va vivre. Il le déteste parce qu'il va vivre, mais il ne le montre pas, sauf par instant. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire? Et l'imaginaire, à ce moment-là, reprend ses droits. Dans le cas de Laval, j'ai eu une certaine habitude d'écouter des condamnés à mort. Soit en attente du nouveau jugement après cassation, mais ils avaient été condamnés à mort une première fois, ils préparaient au deuxième procès, soit en espérance de grâce. Un certain nombre. Et je peux vous dire que aucun, tel que je les ai entendus, ne souhaitait mourir, ne voulait être guillotiné. Je laisse de côté le cas de Buffet, je ne le visitais pas, je savais que lui portait la mort, c'est autre chose. Mais ceux que j'ai connus, non. Ils voulaient vivre. Et singulièrement, ils plaidaient toujours, ils refaisaient leur procès, ils réexpliquaient les circonstances qu'ils jugeaient atténuantes. Bref.
Ce que va faire Laval hein, dans la conversation avec René Bousquet.
Je savais que Bousquet, que Laval continuait à Fresnes, à toujours défendre sa politique, ses choix. Bref, j'avais les éléments. Et pour Bousquet, j'avais été très frappé, excellent livre écrit sur son histoire.
J'avais été très frappé d'apprendre que Bousquet, dans sa résidence en Bavière, avait été arrêté par la CIA, par les services secrets de l'armée des États-Unis. Il l'avait interrogé pendant 3 jours, et à la fin des 3 jours, ils lui ont dit, si vous voulez, Monsieur Bousquet, ils savaient qu'ils avaient affaire là à un homme important et intéressant, on peut vous emmener aux États-Unis, vous aurez une nouvelle identité, vous et votre famille, vous serez tranquille. Si vous restez ici, non, non. A dit Bousquet tout de suite, oui, je veux quand même rentrer à Paris.
Il faut quand même imaginer Paris, cela. Hein,
on est en août 45.
Oui. Oui.
Il arrive, il est arrêté par les Français, première armée, transporté à Paris en avion, amené chez le juge d'instruction, et là, il attend, entre deux gendarmes. Passe un autre collaborateur entre deux gendarmes, qui serait et dit, ah, René, mais toi aussi. Et Bousquet, impassible, lui dit, ne te fais pas de soucis, ça se passera très bien pour moi. La suite, l'unique mot d'ordre donné à ses avocats, c'est gagner du temps. Mmh. Et gagner du temps, il a été mis en liberté 3 ans après, et il a été acquitté. Acquitté. Ce qui est un scandale judiciaire absolu. Lui, le chef de la police de Vichy, il a été acquitté par la haute cour en 1949 du fait d'intelligence avec l'ennemi. Et ce qui est le comble, Bousquet, dans cet arrêt, a été relevé par ses jurés résistants, pour la plupart, oui, a été relevé de l'indignité nationale pour service rendu à la résistance. C'est-à-dire qu'il est, à ma connaissance, le seul homme à avoir comparu devant la haute cour de justice et avait sorti avec un brevet de résistant. Après ça, le reste de sa carrière s'explique aisément. Il avait ce brevet de résistance délivré par la haute cour. Ça a été toujours pour moi un mystère et en même temps un scandale. J'ai essayé j'ai toute la sténotypie du procès, dans lequel Bousquet parle énormément. Il parle très bien, mais énormément, la moitié du temps. L'avocat général, très silencieux, les jurés, indifférents. Curieux, c'est une étrange sténotypie que celle-là. Mais le dossier administratif de Bousquet a disparu. Celui qui contient les correspondances entre le procureur général et la direction des affaires criminelles, il n'y a plus là. Ça demeure, pour moi, cet acquittement et ce brevet de résistance, un mystère et un scandale. Alors, j'ai cherché, impossible de trouver, impossible de savoir, mais si vous vous référez au début, à l'assurance donnée quand on l'amène directement chez le juge d'instruction, t'en fais pas, ça se passera. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ce mystère-là, je le dis, moi, je ne suis pas arrivé à le résoudre. Pas arrivé.
Quels sont ses secrets? Quels sont les dossiers dont il dispose? Quelles sont les aides dont il dispose? Pardonnez-moi, mais on ne peut pas ne pas vous poser la question. Tout ce que vous venez de nous dire, en avez-vous parlé avec François Mitterrand? Qui protégea René Bousquet.
Je vais être très clair là-dessus. Un, je n'ai jamais de ma vie, et pour cause, vu M. Bousquet. Jamais. Donc, ce n'est pas une relation à moi. Jamais. Je n'ai jamais vu. Deux, j'ai appris de sources que je crois sûres que Mitterrand et Bousquet ne se connaissait pas, ou que Bousquet ne connaissait pas Mitterrand à Vichy. Je rappelle que Mitterrand à Vichy, c'était un petit fonctionnaire contractuel, jeune prisonnier évadé, qui œuvrait dans la résistance des prisonniers, il est important dans ce mouvement. Je me rappelle qu'il a été voir le général de Gaulle, il a été transporté en Europe, mais
oui.
Je laisse
ça de côté. Il y a eu aussi l'épisode de la Francis.
Non, je laisse ça de côté. Je dis simplement, Vichy est un monde, m'a expliqué un de ses survivants, dans lequel il y a la hiérarchie sociale jouée à plein. L'un est un jeune contractuel au ministère des prisonniers, l'autre est le chef de la police entière de Vichy et siège au Conseil des ministres. Donc, vous n'êtes pas galonné, vous n'êtes pas amiral, vous n'êtes pas général, vous n'êtes pas préfet, vous n'êtes rien. Et Mitterrand a connu Bousquet après sa libération de prison. J'imagine avec son certificat délivré d'acquittement. Cette extraordinaire décision.
Pierre Laval est dans sa cellule. Il reçoit la visite de Bousquet. C'est évidemment pas ce Bousquet que vous décrivez obséquieux, de temps en temps cherchant à se disculper, qui peut être la conscience de Pierre Laval. Et vous avez une idée, Robert Badinter, qui est une idée de génie. Arrivent les fantômes des victimes de Pierre Laval. Et parmi les fantômes, une petite fille qui lui dit ceci que vous allez entendre, mais lu par quelqu'un, Robert Badinter, que vous connaissez bien, avec qui je sais que vous aimez beaucoup converser, parfois même prendre l'été, et c'est un grand comédien. Voici Vincent Lindon.
Bonsoir.
Bonsoir, Vincent.
Bonsoir.
Tu ne me reconnais pas ? Moi, je ne t'ai pas oublié. Rappelle-toi, place de la Concorde, en juillet 1942, le jour de la grande rafle du Veldiv. Il faisait chaud. Tu étais assis à l'arrière d'une grosse voiture noire. Moi, j'étais dans le bus, plein de juifs. Les policiers avaient sonné chez nous très tôt ce matin-là. Ils étaient trois, un civil et deux en uniforme. Le civil avait un papier à la main, il a dit à mon père... Poznanski, c'est vous ? Vos papiers et ceux de votre femme, vite. Il m'a regardé et a ajouté : C'est ta fille ? Oui. Quel âge ? 11 ans. Mon père a ajouté : Je l'ai déclarée française à sa naissance. J'ai tous les papiers dans le tiroir. Le policier a répondu : Prends-les, tu les montreras au commissariat. Il s'est tourné vers maman qui sanglotait : Ne pleurez pas, ça ne sert à rien. On a reçu l'ordre de vous emmener, alors on exécute. Il a regardé son papier. Vous pouvez prendre chacun une valise, avec une couverture, du linge, un vêtement chaud, et puis une paire de chaussures, des grosses. Faites vite. On a d'autres clients à visiter. Il a dit à mon père, toi tu viens avec nous. Ta femme et ta fille, elles suivront avec les collègues quand le bus sera de retour. Mon père a protesté, il a dit, mais vous ne pouvez pas prendre la petite, elle est française. L'inspecteur lui a dit de se taire et a demandé à un agent de police de l'emmener. Ils sont partis. Et je n'ai jamais revu papa. Je suis resté seul avec maman. Elle tournait sur elle-même comme folle. Elle répétait en yiddish, « La valise, oui, la valise. » Elle l'a trouvée sous le lit. Elle l'a ouverte. Tout était prêt déjà pour mon père. Elle répétait, « Tu vois, pour ton père, j'avais tout préparé. » J'ai tiré ma mère par la manche et lui ai dit, « Et nous ?» Maman m'a répondu, « Rivke, tu es française, toi. Tu as 11 ans. Tu es trop petite pour travailler, pourquoi t'emmènerait-il ? Moi, je répétais, maman, ils vont revenir et moi, je ne veux pas rester seule sans toi ni papa. Je veux partir avec vous. Je t'en supplie, prépare la valise. Alors maman est redevenue elle-même. Elle a sorti une vieille valise et pour moi, un sac à dos que papa m'avait acheté pour aller en colonie. Elle a pris pour elle une robe de laine, un manteau, du linge et aussi des chaussures de marche et un gros pullover. Et dans le sac, elle a mis des chaussettes et une veste épaisse avec une écharpe de laine rouge. Je l'ai aidée de mon mieux. Des larmes roulaient sur son visage. Puis elle a fermé soigneusement les serrures de la valise. Elle a bouclé mon sac, et nous nous sommes assis sur le grand lit. Maman me serrait contre elle, et nous avons attendu en silence. La porte de ma chambre était restée ouverte, et je voyais mon ours en peluche sur l'oreiller, qui me regardait avec ses yeux de verre. Les minutes ont passé. J'entendais des bruits de l'immeuble qui s'éveillaient. La porte de l'entrée a claqué. C'étaient d'autres policiers. Leur chef a dit « Vous êtes encore là, toutes les deux ?»« Tant pis. En route. Nous sommes pressés. » Maman a demandé des nouvelles de papa. Le policier lui a répondu « On verra ça plus tard. » Elle a pris sa valise. Moi, le sac. Un policier ouvrait la marche. Un autre l'a fermé derrière moi. Nous sommes descendus par l'escalier droit. Des portes s'ouvraient au passage et vite se refermaient. En bas, Madame Paulette, la concierge qui se tenait devant la loge, a dit « Au revoir, Madame Poznanski. Bon courage. » Ma mère n'a pas répondu et nous sommes montés dans l'autobus qui attendait devant l'immeuble. Il était déjà plein de juifs portant l'étoile jaune, avec des agents sur la plateforme. Puis l'autobus est parti place de la République. Nous sommes restés là à attendre, longtemps. Des cars chargés de juifs nous ont rejoints. L'autobus est reparti. On n'entendait que les voix des enfants, demandant à boire. Maman me serrait fort la main. L'autobus roulait doucement. Place de la Concorde, il s'est arrêté. C'est là que je t'ai vu, dans ta grosse voiture noire. Un policier dans le bus s'est penché pour voir ce qui se passait. Il a dit, tiens, voilà Laval avec ses motards. Papa m'avait montré un jour ta photo en première page du journal. Il avait dit que tu étais le chef des ministres et un grand ami des Allemands. Je t'ai reconnu. Toi, tu m'as regardé fixement, comme si tu ne pouvais détacher ton regard de moi. Et puis ta voiture est repartie, très vite. Le bus est arrivé devant un grand bâtiment gris. Un policier a dit en riant, « Vélodrome d'hiver, tout le monde descend. » Maman portant sa valise et moi mon sac sur l'épaule, nous sommes entrés dans le bâtiment. C'était l'enfer. Des milliers de juifs étaient assis sur les gradins, en ciment. Des enfants blottis contre leurs parents. Les mères qui pleuraient, les pères qui les serraient dans leurs bras. Dehors, il pleuvait et la verrière cassée laissait passer des rigoles d'eau. Des haut-parleurs hurlaient. Une odeur affreuse montait des paillasses jetées sur les gradins. C'était ça le pire. Les toilettes étaient bouchées. Trop de monde affluait. Les juifs qui n'en pouvaient plus faisaient leurs besoins dans les couloirs. Et moi, j'ai dû faire pipi dans ma culotte. J'étais morte de honte. J'ai des enfants. Peut-être une fille. Laval d'une voix sourde. Oui. Alors imagine ta fille, ta princesse, le derrière sale, très peu à manger et presque rien à boire, juste une gorgée d'eau dans un gobelet en carton que ma mère m'avait ramené après des heures de queue. Tout le jour, des appels ont résonné dans les haut-parleurs, demandant des médecins, mais il n'y avait que deux docteurs de service pour ces milliers de gens et quelques infirmières qui couraient le long des gradins pour faire une piqûre ou donner un cachet. Des médecins juifs s'étaient proposés, mais on leur avait interdit de quitter leur place. Des gardes mobiles y veillaient, au besoin un coup de matraque. « C'est toi, Laval, disait-on, qui avait voulu pour nous cet enfer, parce que nous étions non seulement des Juifs, mais des étrangers, des Polaques, des Litvaks, des Bessarabiens. » Laval. Bousquet m'avait assuré que tout avait été organisé pour que les Juifs arrêtés soient traités avec humanité, surtout les femmes et les enfants. Et le préfet de police m'avait dit ce matin-là qu'il y avait personnellement veillé. Je ne sais pas qui est ce monsieur Bousquet, ni ton préfet, mais ils t'ont menti. Et puis après 3 jours sur ces gradins, dans le vacarme, la faim, la saleté, on nous a menés dans un camp aux environs de Paris. On était entassés dans des wagons de marchandises. Ma mère était restée avec moi, de la paille pourrie sur le plancher et un peu d'eau, quelques morceaux de pain dur pour nourriture. Le voyage a duré des heures. Les plus petits avaient tous la diarrhée. Ça puait tellement. Quand nous sommes arrivés au camp, les gendarmes n'ont pas voulu faire sortir les enfants. Ce sont des détenus juifs qui l'ont fait, avec quelques infirmières de la Croix-Rouge. Ils nous ont conduits aux douches. Et là, grelottant, j'ai vu ces corps chétifs. Et leurs yeux noirs me fixaient. Moi, la grande fille, l'aînée qui aurait dû les protéger et qui ne pouvait que pleurer avec eux. Laval, balbutiant. Mais c'était contraire à mes instructions. Alors écoute bien, le pire restait à venir. Après des jours et des nuits de misère au camp, les gendarmes sont venus et ont pris ma mère et d'autres femmes. Ils nous ont arrachés à elles à coups de crosse. Les enfants hurlaient, les mères pleuraient. Maman m'a regardé en silence, avec tant d'amour et de douleur, que je suis resté figé. Je savais que je n'enverrai jamais. Naval. Mais Oberg, le chef de la Gestapo, m'avait dit que vous, les enfants, rejoindriez vos parents en Pologne. Des mensonges, comme toujours, mais ça t'arrangeait. Parce que tu savais que ce qui nous attendait là-bas en Pologne, c'était la mort. Alors tu dois connaître la suite. Je suis resté au camp quelques jours. Et puis on a transféré les enfants à Drancy. Le lendemain, ce fut le grand départ, avec d'autres enfants. Tu veux que je te raconte le voyage ? Entassé pendant 3 jours dans le wagon. Tu veux que je te raconte l'arrivée ? Les chiens. Les fouets des SS sur le quai d'Auschwitz. Et la marche vers le bloc en béton d'où montait la fumée. Laval. Non. Un prêtre polonais l'a dit un jour confidentiellement à l'ambassadeur d'Espagne qui me l'a rapporté. Mais je n'y croyais pas. C'était trop horrible. Dis plutôt que tu ne voulais pas l'entendre. Tu as livré des milliers d'enfants juifs aux nazis, sachant qu'ils les tueraient. Tu es un assassin d'enfants, Pierre Laval. Et aussi un lâche pour l'éternité.
Vincent Lindon. Merci infiniment, Vincent. Bonsoir, venez nous rejoindre. Merci.
Bravo.
Remarquable, hein. Et il ne le fait pas souvent. Merci, Vincent. Vous avez tenu, quand je vous ai proposé hein, cet exercice, qui est un exercice pas simple, évidemment, jamais personne n'a lu ces mots avant vous, vous avez tenu absolument à être là et à le faire pour Robert Badinter. Qu'est-ce qui vous lie ?
Écoutez, c'est mon ami et c'est un grand acteur. Je savais que mieux que personne, il lirait ces lignes. Voilà, c'est le privilège des vrais acteurs, des grands acteurs, c'est de communiquer l'émotion que celui qui a écrit ces lignes a ressenti en les écrivant. C'est là l'incarnation là, du théâtre. Vous écrivez les mots et ensuite ils deviennent vie grâce aux acteurs. C'est pour ça que j'écris des pièces. C'est parce que d'autres livres, je les ai écrits, des essais, des histoires, pas de romans, mais enfin, beaucoup de livres. Mais là, avec le théâtre, c'est différent. Parce que vous imaginez vos petits personnages, vous les voyez, vous les entendez. Ensuite, vous écrivez ce qu'ils disent. Mais après, ils ont une autre vie. En écoutant là, Vincent, je me suis dit, ben oui, oui, c'est en effet une autre vie pour ces mots. C'est là la grandeur du métier d'acteur et c'est là la beauté pour l'écrivain de théâtre. Ce sont vos mots incarnés qui deviennent vivants. Vous voyez, vivants, sortis de votre imaginaire, d'un seul coup, ils prennent grâce à vous vie. Alors, vous comprendrez pourquoi j'aime le théâtre et pourquoi j'aime aller au théâtre et écouter les acteurs.
Vous lui faites dire tout de même à Pierre Laval, et Vincent l'a interprété, qu'il ne savait pas, qu'il n'était pas au courant de la destination.
Me voyons. Il le dit comme défense. Il a toujours répété, me voyons, voyons, voyons.
Face à sa conscience, face à sa conscience, que pensez-vous qu'il disait ? En avait-il encore une ?
Moi, je suis convaincu que Laval, politicien cynique, qui avait fait une si grande carrière en tournant le dos à ses convictions de jeunesse, que Laval, eh ben, n'avait pas de cœur. Et que Laval était un homme parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Il avait fait un choix politique en juillet 40, il s'y est tenu, il était convaincu que les nazis gagneraient la guerre, il le disait d'ailleurs.
Pardonnez-moi, mais il y a le choix politique et il y a aussi, vous le montrez très bien, et la petite fille que Vincent Lindon a interprétée le lui dit, le choix politique c'est une chose, mais la déportation des Juifs de France.
Mais c'est monstrueux, mais c'est ça le crime contre l'humanité. Et pourquoi croyez-vous qu'à la fin de cette pièce, alors que Bousquet et lui se sont embrassés. Pourquoi croyez-vous que j'ai là, présent, trois, ce qu'on aurait appelé chez les Grecs, les Erinies, vous savez, les ombres, vengeresses. Vous comprenez, pour moi, réfléchissant, me disant, Laval parle, mais il y a la réalité. La réalité, il faut le rappeler, ce sont ses crimes. Et par conséquent, je dois terminer ma pièce sur ces crimes. Et à ce moment-là, ce sont des incarnations des crimes de Laval qui viennent et finissent, évidemment, à ce moment-là, par prendre le poison.
Robert Badinter, nous sommes en 2021.
Oui.
Pourquoi est-ce si important aujourd'hui de rappeler tout ce que vous venez de dire ?
Écoutez, je ne sais pas si c'est important, mais je sais que ça me tenait à cœur. Les êtres humains, ils sont, je le sais si bien au long d'une vie déjà très longue, ils sont complexes. Les criminels, et Laval, c'est un criminel contre l'humanité, est un personnage complexe. Et quand vous écrivez une pièce dont les héros sont ainsi des êtres humains complexes, disons-le brutalement, Laval, c'était un salaud, une canaille. Il aimait sa fille passionnément. C'est d'ailleurs pour ça que la petite fille lui est si sensible, parce qu'il aimait, il la regarde, et elle ressemble à sa fille à son âge. C'était un... Oui, c'est un criminel contre l'humanité. Mais il faut rappeler, puisqu'il a plaidé sa cause, ce qu'ont été les crimes. Vous voyez à quel point c'est une réalité complexe que celle qui vous prend quand vous écrivez pour le théâtre. Il ne suffit pas, pour citer d'illustres exemples, Richard III, il ne suffit pas de dire... C'est un salaud. Il faut montrer que c'est un salaud, dans ce cas-là profond, qu'il a aussi eu sa part d'humanité. Vous voyez, c'est ça qui me fascine dans le théâtre.
Vincent Lindon, vous pourriez interpréter, incarner, vous, au cinéma, puisque on ne vous voit pas au théâtre, mais au cinéma, vous pourriez incarner un homme tel que Robert Badinter vient de le décrire, Pierre Laval.
Alors, je vais répondre assez vite parce que j'aurais voulu parler d'autre chose. Je voudrais parler de Robert
Badinter. On va en parler.
L'homme.
Oui, on va en parler.
Parce que je n'ai pas envie de parler de mon métier, c'est normal. Comparé au métier que Robert Badinter a exercé, ça n'a pas grand intérêt. Mais oui, je vais vous faire une réponse extrêmement banale. Comme un avocat, une grande cause, un grand procès, un grand coupable, un grand innocent, ça se plaide. Ça se plaide avec amour. Et on va à fond quand on y croit. Un grand rôle, si c'est fait par un grand metteur en scène, je peux jouer la pire des crapules qui existent au monde. Ce qui serait infâme, c'est de jouer une crapule mal réalisée par un metteur en scène, parce que c'est déshonorant, ça n'est pas bien. Quand un personnage est fort, grand, riche, on n'est pas obligé d'être un saint et un juste pour être un grand personnage. Laval est un personnage inouï à interpréter. Encore faut-il que le scénario soit formidable et que le metteur en scène le mette en scène formidablement bien. Mais je voulais... Tout à l'heure, j'étais dans la loge, forcément, avant de venir sur le plateau. Et on se parle de temps en temps avec Robert Badinter. On échange à déjeuner de temps en temps ou à dîner. Et là, on s'est vu mercredi dernier. Donc c'était drôle parce que moi, je savais déjà que j'allais venir et je ne devais pas faire de gaffe.
Oui, c'était une surprise. Hein, pour
garder le secret. Hein.
Voilà, j'ai gardé le secret. Et on parle de tout ça, et Robert parle beaucoup du père. Moi, c'est la chose qui m'a mu toute ma vie, c'est mon père. J'avais une adoration quasiment insoutenable pour mon papa. Et c'est vrai, j'écoutais C'est une richesse incroyable pour des enfants que d'avoir des parents qu'ils respectent et qu'ils admirent. Ils partent mieux armés, c'est vrai. Mais c'est pas admiré parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, c'est pas admiré parce qu'ils ont réussi ils sont numéro un professionnellement dans telle ou telle catégorie. C'est juste parce que c'est des gens bien, des gens qui se conduisent bien, quel que soit le métier qu'ils fassent, quel que soit le salaire qu'ils touchent. C'est vrai que j'ai eu cette chance, Robert Badinter aussi, et on partage beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore aller de temps en temps retrouver Robert chez lui parce que j'ai envie de dire, comme j'ai dit à son épouse que j'ai croisé l'autre jour dans l'ascenseur, je sortais et elle sortait de l'ascenseur et elle m'a dit « Vous n'avez rien dit à Robert ?» Je dis « Non, vous inquiétez pas. » Et je lui ai dit « Vous savez, je vous félicite parce que j'ai lu un article que vous avez publié dans le journal du dimanche l'été dernier sur les femmes. Et en fait, quand on me pose une question sur ce que je pense aujourd'hui du féminisme et de tout ça, moi qui aime tant les femmes, j'ai dit « J'ai envie de répondre aux journalistes. Écoutez, rayez le nom d'Elisabeth Badinter et vous n'aurez qu'à marquer le mien et vous saurez tout ce que je pense. » Bien, il y a plein de moments où j'ai envie de faire pareil avec Robert. Beaucoup de choses sur la justice, sur le fait de ne pas faire de concessions, de ne pas plier, de ne jamais aller à la facilité, de toujours garder un cap, de mettre peut-être 35 ans à obtenir ce qu'un autre obtiendra en 4 ans. Ça n'est pas le problème. Mais se coucher le soir sur ses deux oreilles en se disant « Quand je vois ce que je fais, je ne trouve pas ça forcément si bien que ça. Mais quand je vois ce que font les autres, je me dis que finalement, ce que j'ai fait, ce n'est pas si mal que ça. » Voilà. Et j'ai toujours besoin d'un père. Et ayant perdu le mien, j'ai un père de vie chez Robert Badinter. Souvent, je lui demande son avis. Et Alain Cavalier, qui est un metteur en scène, j'aime énormément la sagesse et le recul que prennent les gens bien, qui sont un peu plus âgés que moi et qui ont fait des choses extraordinaires dans leur vie. Et voilà, donc j'ai une chance, je suis un privilégié de pouvoir partager une fois tous les 2-3 mois, faire le code de chez Robert, monter, manger un petit morceau avec lui et l'écouter parler de tout ce dont on a parlé là et d'autres sujets. Et c'est des moments où je voudrais que le monde entier me voie. Mais je vous dis, comme le roi Louis XIV, pour que je puisse leur dire, vous vous rendez compte la chance que j'ai ou non? C'est moi qui suis avec lui. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai accepté de venir lire, parce que je ne suis pas un très grand lecteur, mais j'avais envie de me donner du mal et rendre cet hommage à Robert Badinter. Voilà.
Vous voyez,
je ne peux pas dire mieux.
Je l'aime. Nous avons des liens d'amitié, en effet, anciens. On partage beaucoup de choses. Et je me disais, tiens, j'ai un fils adoptif de plus. On n'a personne de là. Donc.
Et vous avez une anecdote avec mon grand-père.
Oui, c'est vrai, oui. Je l'ai bien connu, mais...
Mais il y a une autre chose qui vous rapproche, si j'ai bien compris, car il y a 2 ans, vous avez tous les deux, Robert Badinter et Vincent Lindon, prononcé un discours, et lu également, dans l'enceinte du nouveau Palais de Justice à Paris,
oui.
Des pièces liées au procès Dreyfus.
Oui.
Et Vincent Lindon, vous êtes un des descendants du capitaine Alfred Dreyfus.
La sœur de ma grand-mère était mariée avec le fils du capitaine Dreyfus.
Ouais.
Mais Robert, c'est...
C'est une histoire de famille, oui.
Il sait tout ça.
Bien sûr.
C'est votre famille aussi. Dreyfus, Zola, ouais. J'accuse, l'affaire...
Je vais sortir d'ici avec une parentèle immense, mais je le dis clairement, je connais la famille Lindon depuis ma jeunesse, depuis ma lointaine jeunesse, et j'ai bien connu l'avocat général, le grand juriste, c'est le cas de le dire, devant l'Éternel. Bon,
votre grand-père.
Ça. Oui. Mais on ne va pas...
On va sortir de l'affaire de... Ici. Sortons 2 secondes de l'affaire de famille et revenons à la littérature et à Dreyfus et Zola. Qu'est-ce que vous lui devez à Émile Zola?
Zola, c'est un exemple. Voilà. Chacun a ses références. Moi, Zola figure parmi elles. Parce que rien ne le forçait à se jeter dans l'affaire Dreyfus. Il l'a fait, et vous savez combien ça lui a coûté, combien il a été haï, combien certains disent même que l'accident au gaz qui a entraîné sa mort n'avait peut-être pas été causé.
Oui, aujourd'hui, les historiens s'accordent même pour dire qu'il est mort asphyxié, mais enfin que celui qui aurait asphyxié était un anti-Dreyfusard.
Mais ce que je sais, ce que nous savons tous, c'est qu'il a été poursuivi par une haine dont on ne mesure pas aujourd'hui ce qu'elle est, qu'aucun écrivain, aucun publiciste, jamais en France, n'a été, à ma connaissance, poursuivi. Il n'en avait nul besoin. Le mot sublime d'Anatole France, au moment de la panthéanisation de Zola, il a été un des moments de la conscience humaine et d'une vérité, d'une force. Il n'y a rien à ajouter. Ça a été une conscience. Et une conscience qui, à ce moment-là, on a payé le prix de la vérité. La vérité n'était pas voulue, n'était pas acceptée, n'était pas aimée. On voulait que Dreyfus soit coupable dans une grande partie de la nation française. Et Zola, lui, a dit non. Et il l'a dit magnifiquement. C'est un grand exemple de courage. C'est un grand exemple de vertu, au sens de vertu romaine. Vous savez, c'est ma conviction, je la dis, quoi qu'il puisse m'en coûter. C'est ça, Zola.
C'est tout à fait ça. C'est les gens qui ont toutes les raisons intelligentes de ne pas entreprendre, parce que c'est le cerveau qui leur... Et le cœur
est
plus fort que le cerveau, et ils entreprennent quand même. Je dis souvent que moi, j'ai beaucoup plus d'admiration si quelqu'un est courageux, quand c'est un lâche qui fait un acte de courage, que c'est un homme courageux qui fait un acte de courage, parce que c'est son caractère. Quand les gens n'ont absolument rien à gagner et y vont, ce qui est l'exemple de Zola, qui tout d'un coup est le seul et le premier à s'insurger contre la condamnation de Dreyfus, en effet, comme dit Robert Badinter, rien, absolument rien, ne l'empêchait, tout allait très bien dans sa vie, et il est devenu l'écrivain un des plus haïs France.
Oui. Robert Badinter, je voudrais qu'on lit l'éloquence et la lecture à travers le grand concours de lecture à voix haute que nous avons lancé, Robert Badinter, vous le savez, et que nous organisons chaque année. Concours de lecture à voix haute à destination de tous les jeunes, de la 6e à la terminale. Cette année, plus de 130 000 jeunes, Vincent Lindon, se sont inscrits à ce concours et ils ne seront plus, c'est la règle du jeu, que 10 seulement en finale d'ici quelques semaines. Alors, chaque semaine dans cette émission, nous vous donnons des conseils pour mieux lire à voix haute ou alors on envoie les écrivains dans les classes. Cette semaine, on a demandé à une comédienne de nous donner quelques conseils. Les jeunes l'adorent. C'est Madame Lepic, Valérie Bonneton, qui vous livre ses astuces, ses trucs pour mieux lire à voix haute. Regardez.
Alors, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup lire à voix haute. Tous mes livres, je les lisais. J'ai découvert La Comtesse de Ségur, voilà, que je lisais. Mais j'adorais jouer les personnages et je lisais à voix haute parce que, je sais pas, j'avais l'impression de comprendre mieux l'univers, d'être plus dans l'univers, de me l'approprier. Donc, j'aimais ça. J'ai toujours aimé la lecture à voix haute. Je ne lisais qu'à voix haute. J'ai besoin d'être déconcentrée pour être concentrée. Enfin, moi, c'est, en tout cas, ça fonctionne vachement pour moi, d'être ailleurs, de se marrer, de parler d'une recette de cuisine avant de commencer, enfin, de dire n'importe quoi. Si je me concentre trop, c'est foutu. Si je suis déconcentrée avant, si on parle, on discute, etc., boum, j'arrive, je suis là tout de suite. Et un truc, c'est les épaules. Les épaules, on est toujours forcément comme ça. D'ailleurs, je le suis là maintenant. Et c'est vraiment de se dire... On remet le corps à zéro. Quand le corps est neutre, on est neutre et on est, hop, disponible. Il ne faut pas être trop volontaire. Il faut aussi accepter de se tromper. Parce que quand on se trompe, c'est vachement bien. Il se passe des choses, même parfois inconscientes, des lapsus, des choses qui sont intéressantes. Il faut les accepter. C'est comme dans le jeu. D'un seul coup, il y a des choses qui se passent et les accidents, et tant mieux, quoi. C'est ça, c'est ce qui est génial. C'est ce qui est super. Il faut s'en servir. relit le premier, les premiers mots, peut-être relire un petit passage, relire le début. Pas juste avant de rentrer en scène, ou pas juste avant de lire, mais peut-être, je sais pas, moi, une demi-heure avant, en se disant, bon, allez, je me reconcentre là-dessus, sur le début, parce que je sais que, voilà, quand on démarre bien, après, on est parti.
Robert Badinter, que diriez-vous aujourd'hui à un jeune qui ne lit pas ?
Je serais d'abord désolé. Ensuite, je lui dirais ce que vous avez tout à l'heure dit. Le livre, c'est un monde. C'est un monde de l'imaginaire qui s'ouvre à lui. Pas seulement de l'imaginaire, d'ailleurs. Par conséquent, refuser ou dédaigner la lecture, c'est se priver d'un monde merveilleux. C'est se priver d'une joie. Alors pourquoi ? Pourquoi ne pas lire ? Pourquoi préférer les jeux télévisés ? Je n'ai rien contre les jeux télévisés, mais véritablement, ça ne vous empoigne pas, je pense, comme la lecture.
Il y a la lecture qui a beaucoup compté pour vous, qui compte énormément pour vous, et puis il y a la musique également. Qu'est-ce que la musique vous apporte, Robert Badinter, à vous l'écrivain ?
Je l'ai aimé aussi passionnément, mais je ne vous en dirai pas plus, parce que ce serait marqué du sceau de la nostalgie. Là, je m'ai rendu sourd, j'entends faux. Quand je tape sur le piano, je jouais du piano en amateur, en petit amateur, je jouais bien. Eh bien, je ferme les yeux, j'appuie sur le clavier, j'écoute et je dis « mi », pas du tout, c'est un « la ». Je dis, je referme, je dis « assez d'eau », pas du tout, c'est un « si ». Et j'entends faux. Alors, j'ai dû renoncer à ce bonheur-là. C'est ainsi.
Parce que la musique est un bonheur, et peut-être aussi parce que je vous avais promis des surprises, eh bien, voyez, il y a un piano ici. Et nous allons maintenant accueillir Robert Badinter, un pianiste. Il est exceptionnel, il a 28 ans seulement, il s'est produit sur scène avec Renaud Capuçon notamment. Il a enregistré 6 albums déjà, il a accepté ce soir de venir jouer pour vous, Robert Badinter, un peu de Jean-Sébastien Bach. Voici Guillaume Bellhomme. Guillaume Bellhomme. Bonsoir Guillaume, merci. Alors on ne peut pas se rendre au concert en ce moment, du coup je vous en offre un. Quelques minutes de grâce dans la grande librairie avec un piano et un pianiste d'exception. Guillaume Bellhomme interprète pour vous, Robert Badinter, 2 extraits de la partita numéro 1 de Bach.
Connu ça, je l'ai même joué. Thank you.
Guillaume Bellhomme, venez nous rejoindre, Guillaume, merci beaucoup. Partita numéro 1 de Jean-Sébastien Bach. Bonsoir, Guillaume.
Bravo. Bonsoir, merci beaucoup.
Bravo, de confiance.
Bravo.
Merci.
Il est aussi à l'aise au violon qu'au piano, hein, Guillaume Bellhomme. C'est vrai, vous avez les deux talents.
J'ai fait
les deux passions.
J'ai fait les deux depuis tout jeune, le violon, le piano. Les deux sont très complémentaires. Vous avez un instrument comme le piano ici qui est plus harmonique, plus percussif, même si on en fait des phrases, évidemment, des mélodies. Et le violon qui est l'instrument du chant, par définition, par excellence.
Qu'est-ce qui vous a tant plu, Robert Badinter, dans le piano, puisque vous l'avez pratiqué avec assiduité?
Rien de comparable à ce que nous avons entendu, enfin, que vous avez entendu. Moi, je le reconstitue par la mémoire. C'est-à-dire que c'est une partita si connue, enregistrée. Votre niveau est égal à celui des grands enregistrements, mais les grands enregistrements aussi, ils ne me parlent plus. Je suis navré de le dire, mais bravo, et surtout, merci. Comme vous avez de la chance, merci. Pas seulement d'être jeune, mais d'avoir cette capacité à jouer et à interpréter ces œuvres-là. Ça, c'est unique, unique. Profitez-en, profitez-en. Passez les nuits, tant pis pour les voisins.
On n'est jamais content. Hein,
ouais. Avant de terminer cette émission, je vous emmène en librairie, comme chaque semaine, une librairie indépendante, évidemment, avec une libraire que, à mon avis, vous allez adorer, Robert Badinter, car elle aussi est très engagée. Elle s'appelle Célia Pro. Elle a ouvert, il y a un peu plus d'un an seulement, la librairie L'Ombre du Vent. C'est à Niort, dans les Deux-Sèvres. Vous voyez qu'il y a encore des librairies qui s'ouvrent en ce moment. Portrait Inès de la Motte-Saint-Pierre, regardez.
L'Ombre du Vent, pour moi, depuis le début, il y avait une chose qui était évidente, c'est que ce serait une librairie engagée. J'avais envie de transmettre des valeurs que je défends depuis des années en tant que militante du droit des femmes, mais pas que. Je voulais être sûre que quelqu'un qui rentre à l'Ombre du Vent, quelle que soit la question qu'il se pose, quel que soit l'avancement, en fait, de son militantisme, si on peut dire, il puisse trouver les réponses. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent dans ma librairie qui sont très différentes de moi d'un point de vue des opinions, et on peut s'entendre à merveille. Autour d'un livre, on pourra partager quoi qu'il arrive. Un livre, un combat, c'est L'art de la joie, de Goliarda Sapienza. Ce personnage principal, né au début des années 1900, Modesta, va combattre toute sa vie le poids de l'Église, la pauvreté, le viol. Elle a envie d'être ce qu'elle est, une femme qui assume dans ces années-là d'être bisexuelle. Elle est lumineuse, cette Modesta. Mon livre coup de poing, c'est Girl d'Edna O'Brien. Peut-être qu'on n'a pas envie de lire la destinée de cette centaine d'étudiantes qui ont été enlevées par Boko Haram. Il est dur, il est âpre, mais mettons le paquet, il faut lire ce livre. Le livre féministe, c'est celui de Mona Chollet, Beauté fatale. Il dit ses injonctions à la beauté, ce rapport au corps qui, petit à petit, peut créer une haine de soi, une haine de son corps. Et je pense qu'elle montre à quel point le corps peut être politique et à quel point ça peut être un outil et à un moment donné une porte d'entrée pour continuer à lutter pour les droits des femmes. Le livre Boussole, c'est L'Ombre du Vent de Carlos Ruiz Zafón, ce gamin qui rentre dès les premières pages dans le labyrinthe des livres oubliés dans la Barcelone qui est encore complètement muselée par Franco et qui choisit le même livre entre guillemets que celui qu'on est en train de lire, L'Ombre du Vent. Il m'a bouleversée, je me suis dit, ben ouais, un bouquin c'est ça, ça peut changer une vie.
Alors, on ne saurait mieux dire, un bouquin, un livre, ça peut changer une vie. Les livres de Victor Hugo, les livres de Robert Badinter aussi, et cette filiation. Eh oui, mais je crois, personnellement, je le crois, et notamment quand on lit celui-ci, Idis, qui vient de paraître en poche. Alors là, voilà, vous avez fait tout à l'heure un formidable éloge du livre de poche. Le poche, c'est pas cher, c'est pour tout le monde, et ce livre, très beau livre que vous avez consacré à votre grand-mère maternelle, est désormais en poche. Et attendez,
Je peux faire un appel une seconde,
oui.
Parce que nous parlons très souvent de ce livre, et je vais le faire parce que Robert n'oserait jamais le faire. C'est un livre qui pourrait faire formidablement un film en 4 épisodes. Et très souvent, il me demande comment on pourrait faire. Mais moi, je ne suis que comédien. Mais c'est une histoire qui serait absolument formidable en 4 fois 1 heure. Avec une grande actrice, ça serait une histoire formidable.
Bah, l'appel est lancé.
Je sais que c'est votre rêve.
Voilà. Et on peut peut-être aussi, d'ailleurs, l'adapter comme l'ont adapté Richard Malka et Fred Bernard, puisque Idis est également disponible en bande dessinée, très belle bande dessinée, avec les dessins donc, de Fred Bernard et l'adaptation de Richard Malka, avocat, mais aussi écrivain, avec qui publie par ailleurs un très bon roman, Malka. Je signale également cette biographie signée Dominique Missica, l'historienne, et Maurice Safran, le journaliste, ensemble. Robert Badinter, L'Homme Juste, c'est aux éditions Talendier. Et bien évidemment, ces 3 pièces dont nous avons parlé ce soir, Théâtre 1 avec Cellule 107, Les Briques Rouges de Varsovie, C3-3, c'est aux éditions Fayard. À plusieurs reprises durant cette émission, vous avez évoqué la jeunesse qui s'enfuit. Avez-vous des regrets, Robert Badinter ?
De la jeunesse qui s'est enfuie, j'ai des souvenirs, c'est déjà bien. De beaux souvenirs, c'est très bien. Pour le reste, c'est la vie.
Êtes-vous nostalgique ?
Nostalgique, rêver de ce qui fut en se disant que peut-être ça reviendra, ce serait absurde.
Êtes-vous mélancolique, parfois ?
Héréditairement, oui.
Hugo disait de la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste.
C'est une phrase très belle.
Très belle.
Très belle.
Pas complètement vraie.
Je ne suis pas sûr qu'elle soit humainement si exacte.
Mais j'aime bien y croire, moi.
Oui.
Parce que vous êtes mélancolique aussi. Vous avez le bonheur d'être triste.
Moi, je suis, je ne sais pas, mais j'aime tout ce qui s'est passé et qui ne reviendra pas. Ça me...
Ah, le passé, oui. Ouf. Goûter le passé, oui.
Ah oui.
Mais la mélancolie, c'est autre chose.
On a beaucoup parlé de poésie hein, ce soir, de Victor Hugo notamment. Quel est, Robert Badinter, le plus beau vers de la langue française pour vous ?
Pour réparer des ans l'irréparable outrage. Voilà. À ce stade-là, oui.
Merci infiniment, Robert Badinter, de nous avoir accompagnés ce soir, de nous avoir transmis de votre amour de la lecture, de l'écriture, du théâtre. C'est un plaisir de vous entendre parler avec tant de conviction de ce qui nous passionne tant et de ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire l'imaginaire. Merci Vincent Lindon d'avoir accepté de lire, d'être venu faire la petite fille. Et merci beaucoup Guillaume Bellhomme de nous avoir offert Bach. On va peut-être terminer avec vous d'ailleurs. Tiens, générique de fin, Mendelssohn, pourquoi pas ? Clin d'œil à une autre émission littéraire.
Eh oui, le générique du Masque et la Plume, que vous connaissez bien, en fait, c'est une romance sans paroles de Mendelssohn. Il en a écrit énormément. Et c'est un petit bijou de subtilité, de finesse. Et donc,
je vous laisse rejoindre le piano. Une romance sans paroles, c'est La Fileuse, numéro 4, opus 67 de Mendelssohn. Je vous rappelle que après La Grande Librairie, vous retrouvez Karim Rissouli et toute sa bande. La culture continue sur France 5. Nous, on se retrouve avec La Petite Librairie tous les jours sur les antennes de France Télévisions. Et puis, bien évidemment, cette émission, vous pouvez l'écouter en balado-diffusion, comme on dit, c'est-à-dire sur toutes les plateformes de podcast, et la revoir en replay sur le site France.tv. On se retrouve la semaine prochaine avec, sur ce plateau, notamment Henri Gougaud, Sophie Noulot et Souleymane Diamanka. Bonne soirée. Bonne lecture, à mercredi prochain. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.